DW. Pulsation. Qui a dit que la littérature africaine n'était pas considérée en Europe ? Le palmarès des prix de la rentrée cette année tend à prouver le contraire. Le Sénégalais Mohamed Bungar Sarr, notamment avec son prix Goncourt, confirme la tendance. En fin d'émission, nous rendrons hommage à Mama Africa. Myriam Makeba nous a quittés il y a aujourd'hui 13 ans, jour pour jour. Mais nous commençons tout d'abord par le mot du jour, pogrom. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Ce 9 novembre, on commémore en Allemagne, entre autres, la nuit de cristal qui a eu lieu entre le 9 et le 10 novembre 1938, alors que le régime nazi antisémite avait organisé des attaques contre les juifs. C'est l'un des pogroms les plus connus de l'histoire. Un pogrom, qu'est-ce que c'est et d'où vient ce terme ? Le mot pogrom est d'origine russe. Il signifie « détruire ». Il est utilisé dès la fin du 19e siècle dans plusieurs langues pour décrire les agressions de masse et les massacres contre les juifs en Russie entre 1881 et 1921. Plus largement, on parle aussi de pogrom pour désigner des violences et des émeutes orchestrées par une partie de la population contre des minorités ethniques ou religieuses au sein d'une société. Comme on a pu le voir par exemple à l'automne 2019 en Afrique du Sud, où des violences xénophobes ont fait de nombreuses victimes. Les commerces et magasins tenus par des étrangers ont en effet été incendiés et pillés parce que la population leur attribuait les difficultés économiques traversées par le pays. Et pour finir, sachez qu'en Allemagne, si le 9 novembre renvoie à la nuit de cristal, bien sûr, il marque aussi d'autres événements comme l'abdication de l'empereur allemand Guillaume II en 1918, l'échec du putsch contre Hitler en 1923 et la chute du mur de Berlin en 1989. On a donc baptisé le 9 novembre en Allemagne « Schicksalstag », en français « jour du destin » ou « jour fatal ». Pour illustrer notre mot du jour, Stromae, l'artiste belge originaire du Rwanda, est parfaitement indiqué avec cette chanson de 2010, Peace or Violence.
J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés, leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait?
Vous écoutez la DW, c'est Pulsation, le magazine Jeune et Culture. Pendant longtemps, on a critiqué le fait que les voix africaines n'étaient pas suffisamment mises en avant en Europe, notamment concernant la littérature. Le prix Goncourt en particulier a été accusé de se concentrer trop sur les hommes blancs. Mais cette année, c'est Mohamed Bungar Sarr, un jeune auteur originaire du Sénégal, qui a été récompensé. Il a reçu le prix pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes », qui raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais qui découvre à Paris un livre légendaire datant de 1938 et qui suit les traces de son auteur mystérieusement disparu. Par ailleurs, le British Booker Prize 2021, le prix britannique de la littérature anglophone, est allé au Sud-Africain Damon Galgut. Dans son roman The Promise, La Promesse, il décrit le bouleversement de l'Afrique du Sud, de l'apartheid vers la démocratie. C'est une histoire de grandes promesses et d'espoirs déçus. Mais ce n'est pas tout. Deux autres auteurs africains ont été récompensés en octobre. L'auteur tanzanien Abdulrazak Gourna a reçu le prix Nobel de littérature et l'activiste et auteur zimbabwéenne Tsitsi Dangaremga s'est vu décerner le prix de la paix des libraires allemands. Il semble que désormais, les auteurs africains soient appréciés en Europe. Mais il n'y a aucune garantie pour que cela dure, avance l'éditeur et traducteur allemand Manfred Leumeier, qui s'occupe de littérature africaine depuis de nombreuses années.
Nous avons également connu à l'époque le boom des auteurs latino-américains dans le sillage de Gabriel García Márquez. Un engouement qui a fini par disparaître. Puis ensuite, on s'est mis à lire un peu des œuvres venant d'Asie. Malheureusement, l'Afrique n'a jamais été très présente. Mais finalement, au vu des dernières décennies, son statut ne cesse de s'améliorer.
C'est pourquoi, sur le fond, Manfred Leumeier est convaincu que l'intérêt pour l'Afrique va durer, en tout cas en Allemagne. Selon lui, il y a ici, via la population germano-africaine, un certain engagement qui permettra d'ancrer durablement le continent dans la scène culturelle. Surtout dans un contexte où l'Allemagne assume de plus en plus son propre passé colonial.
Et j'espère que cela nous aidera à comprendre l'Afrique comme faisant partie de notre propre culture. Je pense que le continent est encore perçu de manière très distante, comme s'il n'avait rien à voir avec nous. Et là, j'ai une opinion complètement différente. Je pense en effet que l'évolution de l'histoire allemande est en fait essentiellement basée sur la période coloniale.
Mais le marché du livre n'est pas le seul domaine où l'appel à la diversité se fait entendre. La diversité est à l'ordre du jour, que ce soit en politique, dans les affaires ou dans la culture. L'industrie du cinéma et de la télévision se diversifie aussi progressivement, mais la route est longue, il faut être patient. Quelque chose est en train de changer, mais à petite échelle. C'est ce que constatent en tout cas des personnalités du showbiz qui ont des racines africaines. C'est donc peut-être une coïncidence que des auteurs africains aient remporté 4 prix importants en littérature ces dernières semaines. Mais c'est certainement un bon signe. Quant à savoir si le jury du prix Goncourt a procédé à une évaluation purement littéraire ou si des considérations politiques ont également joué un rôle en raison des critiques formulées précédemment à l'encontre du prix, cela reste un sujet de spéculation. Ce qui est certain, c'est qu'il est bon pour un prix de montrer qu'il est ouvert à la diversité. D'ailleurs, l'intéressé lui-même, Mohamed Bougarsar, est conscient de la dimension politique de son succès, ainsi qu'il l'a déclaré dans un point presse juste après avoir appris la nouvelle.
L'Académie Goncourt envoie un signal très fort, je pense, à beaucoup de gens. D'abord au milieu littéraire français, évidemment, mais à tous les milieux littéraires de l'espace francophone. Et je pense que c'est important de le dire. Je ne voudrais pas du tout qu'on pense à que cette récompense relève de quelque chose d'exceptionnel, d'un régime d'exceptionnalité. Ce n'est pas une faveur qu'on fait à un écrivain africain. Ce n'est pas parce qu'il est africain qu'il l'a eu. J'espère vraiment que c'est parce que, d'abord, il y a un livre qui est à la base de tout cela. Mais évidemment, je n'ignore pas les questions politiques qu'il peut y avoir derrière une récompense semblable. Et je remercie vraiment le jury d'avoir eu ce geste-là, cette pensée-là, qui n'est pas un geste de faveur, qui est un geste littéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'espace littéraire, on peut penser des questions plus politiques liées maintenant à l'espace francophone, de façon plus générale, au sein duquel la France figure, au sein duquel le Sénégal figure, au sein duquel Haïti figure, au sein duquel beaucoup de pays figurent.
Une chose est cependant évidente, lors des cérémonies de remise de prix, le besoin d'attribution reste important. Il paraît évident que Damon Galgut, qui vit au Cap, est un auteur sud-africain et que Mohamed Bougarsar, puisqu'il ne vit en France que depuis quelques années, est sénégalais. Mais qu'en est-il d'Abdul Razak Gourna, par exemple? Est-il un auteur britannique ou tanzanien? Il a grandi en Tanzanie, certes, mais il vit et travaille en Grande-Bretagne depuis plusieurs décennies. Manfred Leumeier, l'éditeur et traducteur spécialiste de la littérature africaine, ne saurait pas plus le dire que quiconque. Mais en tout cas, il sait que de ce point de vue, l'auteur lui-même a son mot à dire, non seulement à cause de son ressenti, mais aussi par le biais de son œuvre.
Il y a un très beau roman de Dany Laferrière. Il vient d'Haïti, vit au Canada et a écrit un livre intitulé « Je suis un écrivain japonais ». Son protagoniste y crée une biographie en disant « Mon public est au Japon, j'écris pour un éditeur japonais, c'est là que se trouvent mes lecteurs, donc en fait ma perception est une perception japonaise. Et comme je ne suis perçu comme un écrivain que là-bas au Japon, je suis en fait un écrivain japonais. J'ai trouvé cette approche inhabituelle mais bonne. »
Finalement, la nationalité ne joue aucun rôle dans la littérature. C'est surtout le vécu qui a une incidence sur le livre et sur la perception. Même l'espace linguistique dans lequel un livre est écrit n'est pas une limite, puisque la traduction permet de le transporter dans d'autres espaces. Ainsi, le roman de Mohamed Bougarsar est déjà paru en 22 langues, selon le quotidien allemand Börsenblatt. Hanser Verlag, l'éditeur qui a obtenu les droits pour l'Allemagne, prépare la parution de « La plus secrète mémoire des hommes » à l'automne 2022. Merci à Petra Lambeck qui a recueilli le témoignage de Peter Leumeier pour la DW.
projecteur.
Impossible de ne pas reconnaître cette chanson de Myriam Makeba, l'une des plus grandes voix de la musique africaine, non seulement par ses interprétations, mais aussi par son profil de militante politique en Afrique du Sud, qui lui a valu de vivre en exil pendant une trentaine d'années. Celle qu'on appelait parfois Mama Africa parcourt le monde et multiplie les succès musicaux. Rien ne destinait Zenzile Makeba Kwashu Nguwama à ce destin. Elle naît le 4 mars 1932 dans un township de Johannesburg, d'un père instituteur et d'une mère domestique. Sa mère est emprisonnée alors qu'elle n'a que quelques jours pour avoir brassé de la bière pour subvenir aux besoins de la famille et son père meurt lorsqu'elle a 6 ans. Mariée à seulement 17 ans et mère à 18, elle réchappe d'un cancer soigné par sa mère de manière non conventionnelle. Elle ne commencera à chanter professionnellement qu'à 20 ans, d'abord en tant que choriste, puis son tube planétaire Patapata que nous entendons en arrière-fond la fera entrer dans la cour des grands. Outre l'anglais, Myriam Makeba chante dans plusieurs langues d'Afrique australe, dont le Xhosa, de l'ethnie dont son père était originaire, est caractérisé par les clics. On l'entend très bien dans Click Song. Reconnue dans le monde entier, Myriam Makeba sera des années durant le visage de la lutte contre l'apartheid, au même titre que Nelson Mandela. Et au terme d'une vie privée mouvementée, marquée par 5 mariages en tout, elle s'éteint le 9 novembre 2008 en Italie à la suite d'un malaise alors qu'elle sortait de scène. Elle avait 76 ans. Le prix international Myriam Makeba récompense désormais chaque année la créativité artistique dans le continent africain. Myriam Makeba reste une source d'inspiration aussi pour la jeune génération. Preuve en est cette chanson que nous écoutons pour nous quitter. La chanteuse française Jane lui rend hommage dans Makeba. C'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de votre attention. Le podcast est disponible sur dw.com/français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut.